rivière à ferraille.
Ne sois plus jamais triste.
Pourquoi?
Le Père Noël existe.
Où ça?
C'est à Rovaniemi, au fin fond de la Laponie. C'est un petit village
de bois
où, malgré son grand âge,
il va
au soleil de minuit, travaillant le jour et la nuit. On dit qu'il se promène
parfois
au pays des grands rennes,
là-bas,
assis sur son traîneau, bien au chaud dans son grand manteau. Vite, le temps me presse.
Pourquoi?
Car toutes les maîtresses
à toi
vont l'aider chaque année à préparer tous ses jouets. Ne sois plus jamais triste.
Bon, vous l'avez entendu, vous le savez parce que vous avez regardé le calendrier, vous avez fait votre lettre au Père Noël, vous avez sûrement déjà reçu peut-être quelques cadeaux. C'est Noël et on vous réserve aussi de notre côté un épisode de Noël pour Nanarland, le podcast, rempli de films de Noël, rempli de films familiaux, mais tous plus ratés les uns que les autres, c'est le principe. Les films de Noël dans le Nanar, c'est maintenant.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans les cœurs.
Rivera Ferret présente Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques. The podcast about likable bad movies. Подкаст о второсортном кино, который мы все так любим смотреть.
De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja?
Alors, tu es convaincu?
Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement.
Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit.
Depuis les studios Nanarland, Paris et Grenoble. From Nanarland Studios in Paris and Grenoble. Сделано в студии Nanarland в Париже и Гренобле.
Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme puma.
Bonsoir, bienvenue dans Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques. Un podcast où on vous parle avec amour de films totalement ratés. Et aujourd'hui, c'est Noël, donc on va vous parler de trois films pour la famille, trois films de Noël, mais trois films complètement à côté de la plaque. Heureusement, je ne suis pas seul pour remplir cette mission. Avec moi ici à Paris, Julien. Julien, comment ça va?
Bonsoir Martin, bah, ça va bien, sauf que je suis toujours un peu enrhumé malheureusement.
Ça fait 3 semaines.
Il traîne ce rhume, hein. Il traîne ce rhume, dis donc. Oh là là, qu'est-ce qu'il traîne?
Dis-moi, je serais toi, je consulterais quand même au bout d'un moment. Hein.
À partir de 5 jours, normalement, il faut aller voir le docteur. Là.
Ouais, parce que dans l'épisode précédent, qui date, qu'on a enregistré il y a très longtemps, tu étais déjà malade. Et dites-moi, qui êtes-vous, vous là-bas, de l'autre côté du Skype, de l'autre côté des Alpes?
Salut les nanardeurs, j'espère que vous avez été bien sages. C'est petit papa Rico qui va vous offrir des beaux cadeaux.
Oh mon dieu.
Oula, c'était un peu flippant quand même. Hein. Donc moi je vais me présenter simplement, salut c'est Fabien.
Je pense que si Rico c'est le papa Noël, ça fait de nous les lutins du nanard grenoblois.
Ou
pas
les reines.
Ou les reines, ouais.
Et donc sur Paris, c'est les pères fouettards en fait.
Bon, alors, vous trois, vous avez chacun choisi un film à nous présenter. Les autres ne savent pas ce que c'est. Donc, on a tous hâte de découvrir quel film vous avez choisi. Vous allez nous les présenter et vous allez donner envie à tout le monde de les regarder, comme à chaque fois. Régis, je me disais que ça serait bien si tu commençais et que tu nous présentais ton film avant les autres. Qu'en dis-tu?
Eh ben ça roule. C'est parti. Donc moi, pour tout dire, j'étais parti pour faire le film J'ai rencontré le Père Noël, dont on a entendu un extrait en début d'émission, le film de Karen Cheryl. Et puis je suis allé dans un magasin Noz. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous en avez près de chez vous.
À Paris, non, on n'en a pas, non.
D'accord. Donc, Noz, pour vous situer, je sais pas si vous connaissez les magasins Jiffy, La Foire Fouille, les trucs comme
c'est
ça.
C'est nos Galeries Lafayette à nous.
Voilà. C'est les Galeries Lafayette à comparer de Noz. Après, Noz, c'est très bien. C'est un faillitaire qui récupère tout ce qui traîne, notamment plein de DVD. Et il se trouve que qu'en allant là-bas pour chercher des DVD, parce que je précise que je n'y vais globalement que pour ça, je suis tombé sur un bac spécial Noël, et là du coup ça a été une sorte de game changer, et j'ai laissé tomber le film de Karen Cheryl pour vous parler du film d'aujourd'hui. J'ai hésité parce que j'ai ramené Christmas Wedding, My Santa, L'Incroyable Noël avec un chien avec un bonnet de Père Noël, Il faut sauver les chiens de Noël, Trois copains pour Noël,
j'ai
le plus beau
d'être une
jour de l'année sera le,
c'est un
aussi
peu ça,
le plus
ouais.
drôle. Voilà.
On dirait une après-midi des soirées de Noël, enfin une après-midi des vacances de Noël sur la chaîne de la TNT.
Mais quoi. Voilà, ce n'est pas l'un de ces titres que je vais raconter. Et avant de vous dire ce que c'est, je voudrais qu'on écoute le premier extrait.
C'est fiston, j'en ai vu des Noëls.
Non, je te crois pas.
Si, je te le jure.
Et t'as vu le Père Noël?
Ouais. Maintenant, silence, il arrive.
Waouh!
C'est magique.
Il a pas de griffes. Et qu'est-ce qu'il est gros!
Il est jovial, Ricky. C'est pour ça qu'il est gros.
Ah! C'est le disque que voulait Julia. Comment il savait?
C'est le Père Noël. Il sait tout.
Je vais aller lui dire ce que je veux.
Hé, fiston, où est-ce que tu vas?
Je vais dire bonjour au Père Noël.
Ah non, il est allergique aux chats.
Non, putain, j'en étais sûr.
Voilà, donc c'est les chaventuriers de Noël.
Oh putain, purée.
J'étais sûr que c'était un truc d'animal.
Titre
Signé ça, c'est signé Régis.
Ouais. Titre original, Santa Claus.
Oh, 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 oh.
C'est beau.
On se refuse rien. Et donc
c'est vraiment jour de fête.
Voilà, c'est vraiment jour de fête, c'est magie. Et donc c'est du direct to Noz en fait. C'est des films qui n'existent que là-bas. Et je pense peut-être sur Gulli aussi. Je crois qu'il a eu une diff. Mais voilà. Et donc la divine surprise quand j'ai introduit le DVD dans le lecteur, c'est que je vois le logo. Oh, The Asylum. Alors,
ah, oui.
Voilà, pour ouais. ceux à qui ça parle, c'est une boîte de prod américaine qui a fait les Sharknado, qui a fait tous ces films de requins.
À bas prix.
À bas prix. Et je découvre en fait l'existence du ACU, du ACU, du Asylum Cinematic Universe en fait. Parce que du coup,
le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt.
Parce qu'en fait, dans le film, il parle de Sharknado. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec qui cherche dans cette cassette vidéo, il dit ah non, je peux pas effacer Sharknado, il y a un gamin qui a un petit requin,
oh,
etc.
Non.
Et en fait, le réalisateur a travaillé comme assistant réalisateur sur Sharknado 2, sur Sharknado 4. Et il a réalisé aussi, je sais pas si vous vous rappelez, c'est zombie mais avec deux O, parce que comme dans Zoo, parce qu'en fait c'est des animaux zoo qui deviennent zombies.
Ah ouais, ce truc. Oh là là.
Voilà.
Avec ouais. la police de caractère de Jurassic Park sur l'affiche.
Voilà. Et donc Glenn Miller, ouais. le réalisateur de des Chaventuriers de Noël, a aussi réalisé ça.
Je crois que le titre suffit.
C'est ça que ta chronique peut faire 25 secondes, hein. Tu t'arrêtes au titre et puis tu dis merci, bonsoir, drop mic et hop.
Alors, bon, pour tout dire, je l'ai regardé, j'étais au bout du concept, hein. Je l'ai regardé avec mon fils de 10 ans, ouais. qui lui-même a trouvé que c'était un excellent nanar. Alors évidemment, il est peut-être pas super objectif parce qu'il est un peu dans un environnement vicié à ce niveau-là, mais il m'a aidé à repérer quelques faux raccords tellement c'est flagrant. C'est pas un The Asylum du film de Noël dans le sens où ça serait volontairement cynique et exprès, il jouerait sur les codes du film raté. C'est vraiment, vraiment, vraiment très raté. Le pitch en deux mots, c'est que le Père Noël, en fait, il livre ses cadeaux, et ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des chats qui viennent le voir, mais il est allergique aux chats, en fait. Donc il tombe dans les pommes quand il y a des chats qui viennent se frotter à lui, et il s'évanouit. Et deux enfants, en fait, Julia et son voisin Marcus Bramble, le voient à ce moment-là, et découvrent en fait que le Père Noël existe pour de vrai. Ça, c'est le flashback. Et en fait, 30 ans plus tard, Julia est devenue maman, mais on ne sait pas pourquoi elle veut plus croire au Père Noël, contrairement à son voisin Marcus, qui fait tout pour, pour essayer de convaincre le monde que le Père Noël existe. Voilà. Donc,
on dirait un mec qui essaie de vendre un pitch au marché du film à Cannes. T'sais.
J'ai 30
et
secondes.
Tu n'y arrives pas.
Je sens
mais
que
dedans, il y a des chats, les gars, je vous
oui.
jure.
Et Julia, ouais. et Julia a une chatte et 3 chatons, du coup. Et le soir de Noël, évidemment. Roulement de tambour, chatastrophe.
Oh, non, t'y mets pas.
Non, t'avais promis. T'étais pas obligé. T'étais vraiment pas obligé.
Nos limites. C'est Noël. Donc, ouais. chatastrophe. Le Père Noël tombe dans le coma parce que voilà, les petits chatons se sont frottés à lui. Et du coup, les chatons qui parlent, hein, on l'a entendu, partent avec le traîneau et c'est eux qui vont devoir sauver Noël en livrant les cadeaux à tous les enfants du monde. Voilà.
Oh mon Dieu. Mais les chats sont joués par
tu
des
veux dire
chats,
qu'ils vont livrer
peluches,
les shadows à tous les enfants
des
du
chats
monde.
En image de synthèse.
Alors, c'est des chats, non, c'est des vrais chats. Mais avec la bouche en image de synthèse, ouais, comme ça se fait de plus en plus maintenant. Donc en fait, voilà. C'est des chats filmés en plan fixe avec voilà qui attendent, qui doivent avoir des croquettes pas loin. Et puis après, on rajoute en post-prod des mouvements de bouche, ce qui fait un truc hyper creepy en fait.
Ah ouais.
On parlait de la Uncanny Valley là pour ces espèces de trucs vrais faux. Bon bah c'est un peu ça quoi. Donc voilà. Et donc en fait, donc le film en fait, c'est les chatons qui vont livrer les cadeaux avec plein de situations vaudevillesques, on va dire, avec les trois personnages, parce qu'en fait il y a trois personnages dans le film, Julia, Marcus Bramble et le fils de Julia. Après, bon, dans les incohérences, il y en a plein, je vais en lister quelques-unes. La première, c'est que par exemple, Marcus, qui est le mec qui est censé être persuadé d'avoir vu le Père Noël et puis d'être le seul et puis de se battre contre le reste du monde. À un moment, il appelle en fait son copain hacker, hein, qui est donc un pirate informatique, pour pirater le traîneau du Père Noël. Voilà, donc il est pas censé. En fait, personne n'est censé savoir que le Père Noël existe, mais voilà, si on peut écouter l'extrait qui s'y rapporte, on verra que c'est pas si simple que ça en fait.
Réponds, allez.
Oui, allez.
Nedry, Dieu merci, t'es là. J'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose, ok?
Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Voilà, j'ai besoin d'un service. Tu peux entrer dans le réseau du Père Noël, là, tout de suite, maintenant?
Ah, c'est drôle, j'y suis depuis ce soir.
Ok, parfait. C'est extrêmement important. En fait, je dois absolument entrer en contact avec le traîneau. Est-ce que tu peux m'y aider?
Pourquoi t'as besoin de joindre le traîneau?
Oh, c'est une très longue histoire que je te raconterai plus tard, si tu veux, mais je t'en prie, aide-moi.
D'accord, mais à charge de revanche, et t'as pas intérêt à oublier, parce que moi, je m'en souviendrai.
Oh, je te remercie, tu me sauves.
Donc voilà, donc il pirate le traîneau du Père Noël. Donc en fait, on rentre comme on veut sur les serveurs du Père Noël. C'est complètement n'importe quoi.
C'est piqué à Dépendance Days quand ils ont hijacké les vaisseaux mères.
Et donc, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il y a les trois petits chatons qui sont en rade. Parce que les reines du Père Noël se sont barrées et qui sont perdues quelque part, seules dans le traîneau. Mais heureusement, ce traîneau est plein de ressources, comme on va l'entendre avec l'extrait suivant.
Bah, a priori déjà d'un GPS, de ce que tu nous dis.
Ah, tu vas voir, c'est pas tout.
Je veux maman. Comment on va faire pour déposer les cadeaux? Et comment on va faire pour entrer à la maison?
Chaton.
Bramble? Et maman? Il doit être tout près s'il peut nous voir.
Vous êtes là, c'est moi, Monsieur Bramble. Je suis avec votre maman. J'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vais vous dire pour que vous puissiez rentrer chez vous, d'accord? Le traîneau est équipé de turbojets. Je peux les activer de mon ordinateur, mais c'est à vous de diriger le traîneau. Vous allez y arriver?
En route! On rentre à la maison!
Donc voilà, le traîneau est équipé de turbojets.
C'est le service Q qui s'occupe des traîneaux du Père Noël.
Donc on se retrouve avec une scène, effectivement, avec trois chatons qui pilotent un jet avec le traîneau du Père Noël, pardon, avec des énormes réacteurs, avec tout le savoir-faire de The Asylum en matière d'effets spéciaux.
Oh oui, ça doit être beau ça.
C'est magnifique. Et en gros, c'est un peu à l'image de tout le film, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord et on bricole un espèce de truc qui en fait un vrai bon nanar. Il y a une règle de base en fait dans le cinéma, c'est pas d'enfants, pas d'animaux. Et donc pour un détournage facile. Et là on sent qu'en fait, alors l'enfant il s'en tire plutôt pas mal. Par contre on sent qu'ils ont mais galéré avec les chatons, c'est-à-dire que on voit. En gros ils les ont filmés faire n'importe quoi. Et après ils se sont dit bon bah on va remettre des dialogues derrière. Donc il y a trois doubleurs qui galèrent pour essayer de les faire parler.
C'est un peu
quoi.
Comme quand Henri Michel essaie de remonter notre podcast en fait.
Ouais, je crois que ça.
C'est un petit peu ça.
Il y a une scène que j'ai trouvé vraiment excellente où à un moment ils sont censés faire plein de conneries, sauf que c'est vraiment des petits chatons. son. Donc à un moment, il y a le gamin, il fait tomber un rouleau de sopalin qui roule dans tous les sens. Et eux sont censés, en fait, les petits chatons, le déchirer et puis faire voler comme des petits flocons de neige tous les petits bouts de sopalin. Et on voit clairement, dans une télé éteinte, en fait, le pauvre accessoiriste qui est allongé par terre, derrière le canapé, et qui balance en l'air, comme ça, mollement, des petits bouts de sopalin, et c'est une espèce de...
pathétique.
C'est, voilà, une certaine idée du pathétique. Quoi,
tu sais que les CGI, en fait, heureusement qu'ils existent pour ce genre de film, parce que ce genre de film a souvent existé, et dans les années 70-80, notamment, c'était des films avec des chiens. Et pour faire parler les chiens, en fait, ils les faisaient aboyer. Pour faire justement la synchro labiale. Donc là, je pense que c'est encore plus galère parce que tu devais faire aboyer un chien à longueur de temps. Et là, maintenant, du coup, ils s'emmerdent plus, quoi. Ils font juste du CGI sur les mâchoires, sur la gueule des chats, quoi.
Des bouches pas très bien, pas très bien incrustées. Il y a un moment, on voit aussi la main de l'accessoiriste qui pousse le petit chaton du traîneau parce qu'il veut pas descendre.
Il y a une petite chenette, tu sais, le truc un peu humiliant. Ouais.
Le lancer de chat,
le lancer de chat,
grand classique.
Je pense qu'il y a pas loin du lancer de chat, ça se trouve, quoi.
Ils sont à un moment, ils sont perdus dans la neige. En fait, c'est vraiment une couverture blanche avec des petits bouts de polystyrène sur fond noir, quoi. Et en fait, le truc, ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde bien le film, on comprend un peu la méthode pour tourner un film à pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois acteurs, mais vraiment quatre acteurs, quoi. Il y a le Père Noël, il y a Julia, il y a le voisin et il y a le fils. Les petits chatons, finalement, c'est pas vraiment des acteurs, donc c'est du doublage. Il y a quelques figurants enfants qu'on voit 5 minutes et c'est tout. Et en fait, à chaque fois qu'on voit le traîneau qui vole, bah finalement c'est des stock shots qui ont été rachetés. Alors on a coutume de se foutre un peu de la gueule des films italiens qui rachetaient qui faisaient des films de jungle avec des trucs rachetés à National Geographic. Là finalement c'est des survols de Los Angeles qui ont été rachetés sur des Shutterstock ou je ne sais Getty Image ou des trucs comme ça, sur lesquels ils ont pauvrement incrusté le traîneau. Ça aurait presque pu être en fait une pièce de théâtre, quoi, tellement c'est pauvre, à tel point que le flashback, en fait, j'ai regardé, donc le flashback, c'est que le Père Noël, il s'effondre au pied d'un sapin, et 30 ans plus tard, en fait, ça se passe dans la même maison, donc ça veut dire que la mère, la fille a racheté la maison de ses parents, vit dedans avec son fils, et que son voisin a fait la même chose, en fait, si on suit la cohérence de l'Asylum Universe.
C'est le marché. C'est le marché immobilier américain depuis la crise des subprimes, hein. Difficile.
Donc voilà, on a évidemment des scènes clés qui sont aussi, par exemple, à un moment, il y a le Père Noël qui fait un malaise, donc il tombe dans les pommes parce qu'il est allergique au chat, donc il le ranime un peu à la Pulp Fiction en lui plantant une... Ça fait presque bizarre, c'est presque choquant. Ce qui est marrant, c'est qu'il a une main qui se met à gonfler, donc il a une main clairement en mousse. Voilà, donc il y a tout le savoir-faire Asylum dans ce film, qui est un film du coup que j'ai pu tester avec mon fils et qui honnêtement se regarde vraiment bien. Honnêtement, c'est sans prétention, mais dans l'optique d'un nanar de Noël, je trouve que c'est un peu un film parfait parce que en même temps ça se prend pas la tête, mais il y a vraiment tout qui est raté. Et puis évidemment, bah il y a la morale dégoulinante dont il faut asperger l'ensemble du film parce que c'est un film de Noël. Et à ce niveau-là, le quatrième extrait donne un peu le ton.
Depuis la nuit de Noël où Julia et moi avons vu le Père Noël, j'étais malheureux parce que Julia m'a laissé tomber quand les autres enfants se moquaient de moi. Ensuite, chaque année, je célébrais le Père Noël et j'essayais de prouver qu'il était bien réel. Mais ce soir, le pouvoir de son bonnet m'a montré que Noël, ce n'est pas juste le Père Noël, c'est aussi aimer les autres et être gentil avec les autres. Aider ceux qui en ont besoin, comme Julia, et Tommy, et toi, et tes pauvres petits chatons perdus tout seuls dans la nuit froide. Je dois aller aider tes bébés. Nous devons aider tes bébés. Oui, allons chercher tes chatons.
Putain, il donne tout là.
Il y a surtout un côté psychopathe, genre allô chercher les chapeaux pour les égorger et pour casser les pattes.
Donc voilà, j'ai une petite pensée pour finir sur la solitude des acteurs de ce type de film. Et puis mon petit conseil Noël pour un Noël nanar en famille.
Non, bah merci, beau. Bien vu, hein, bonne découverte, ça fait plaisir de
merci Nose. Merci Nose.
Merci Nose, ouais.
Je pense qu'il y aurait moyen de faire un deal avec eux, de faire sponsoriser l'émission si on veut, je sais pas.
C'est vrai que ça pourrait être notre premier sponsor.
Ouais, un bon cadeau, je pense. Ça serait, mais...
Effectivement, après on devrait pouvoir attaquer Jiffy assez facilement. Mais,
le bac à sol de la foire fouille présente Nanarland le podcast.
Je pense que pour fêter ça, on prendrait un mousseux de chez Leader Price.
Non mais c'est cool de pouvoir découvrir des nouveaux films à ajouter à la collection.
Parce que celui-là est récent en plus quoi, du coup.
Ah oui. Ah ouais, alors j'ai pas la date, mais oui, ça a moins de 5-6 ans, ça fait ouais. un grand max quoi.
Et il y a peut-être des chances qu'il passe.
Je pense qu'il passe. Savoir. Il passe sur Gulli en fait
Gulli,
de temps en temps.
Ouais, ou peut-être Sci-Fi ou je sais pas.
mine de rien, Asylum, ils réussissent quand même vraiment à rentabiliser leur catalogue et à se vendre dans le monde entier. C'est un peu les Corman actuels dans l'esprit.
Exactement, c'est ce que je me suis dit.
Ils ne perdent jamais un dollar.
Je me suis dit, ça m'a presque réconcilié avec cette boîte qu'on a coutume de dénigrer parce que leurs films de requins sont vraiment atroces. Est-ce que c'est pas quelque part de la pure série B dans le sens où c'est l'usine à film d'exploitation quoi, parce que ça finalement c'est un film c'est une sorte de film d'exploitation de
c'est la Christmas exploitation
quoi et le mec quand on voit que un an après il fait un film de d'animaux zombies qui bouffe des gens dans un zoo, je me dis bah voilà c'est presque une idée de du cinéma qu'on a plus aujourd'hui quoi.
Ça me fait penser aussi que faudra peut-être qu'on fasse une émission sur sur les animaux de ces quatre.
Ah bah il y a
Et peut-être la différence essentielle avec la période Corman, même la période Empire avec Charles Band, c'est que je pense qu'il y aura jamais aucun cinéaste qui sortira de The Asylum, parce que quoi qu'on en dise, Corman, Ron Howard, James Cameron, ils sont sortis de la série B, ils ont fait des séries B. Là, objectivement. Tous les tâcherons qui font du The Asylum, je suis pas persuadé que dans 10 ans
c'est pas encore une usine à talent, mais
voilà, on en parlera encore. Hein.
Les mecs qui ont émergé à l'époque de Corman, c'était pas forcément des mecs qui étaient bons à la base, ils étaient embauchés parce qu'ils pouvaient travailler très vite et pour pas cher aussi. Après, qu'ils fait qu'ils aient un talent, c'est aussi un petit peu le on va dire la probabilité. Ouais,
clairement, là, c'est le profil quoi. Tu sens que c'est des mecs qui savent faire des films efficaces, pas chers, qui font illusion. Et en fait,
comme à l'époque de Corman,
ils font pas illusion longtemps, ils font pas illusion auprès d'un enfant de 10 ans comme j'ai pu le tester. Mais en fait, ils font illusion dans le flux de ce que propose la télé, dans le flux des DVD. Et en fait, si on n'a pas un petit peu l'œil, ça trompe son monde, on va dire.
Ouais,
et
c'est le genre de film qui tourne en fond pendant qu'on fait autre chose quoi.
Quand on le regarde pas sous l'axe nanar, mais après quand on est plus dans l'analyse et qu'on cherche la petite bête, ça devient franchement rigolo. On s'est bien marré quoi avec mon fils.
Ouais. Quelque part c'est marrant de se dire que comme tu parlais de flux, c'est intéressant quand même. C'est que maintenant c'est les flux de bac à DVD et surtout de chaînes de télé, des bouquets satellites et du câble et tout ça à remplir. Et avant c'était les salles de ciné qu'il fallait remplir aussi en pagaille. Et on a oublié cette période où il y avait encore plus de sorties que maintenant finalement.
Là en fait maintenant il va y avoir des directs ou VOD. Il va y avoir un débouché je pense pour
c'est un débouché énorme. Les trois quarts des films, en fait, maintenant, ils sortent plus du tout au ciné. Hein.
Bon, merci, bravo pour cette trouvaille. Je pense que ça serait bien si on passe au film de Rico maintenant.
Allons, bon, on va rester dans l'esprit de Noël. On va rester dans un programme familial.
On va peut-être un petit peu s'éloigner d'un programme familial.
Il y a le Père Noël
à la fin.
Moi, j'ai le Père Noël aussi.
Vas-y, balance.
Moi, on me dit Noël, on me dit. Grand sentiment, beauté, famille, donc je pense à Douce Nuit, Sanglante Nuit 2 de Lee Harry de 1987. Un film avec un Père Noël avec une hache.
Et c'est ça qu'on veut.
Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus?
Soyons honnêtes, pour moi, Noël, c'est ça. Moi, mon film de Noël préféré, c'est Piège de cristal, donc il faut que ça bouge un petit peu quand même pour un film de Noël. Et Douce Nuit, Sanglante Nuit 2, parce qu'il y en a quand même eu 5 plus un remake, j'en parlerai après. C'est le pire de la série. Et c'est en même temps un film qui non seulement est un nanar par lui-même, mais en plus qui est une vaste escroquerie. Alors, comme son nom l'indique, Douce Nuit, Sanglante Nuit 2, c'est la suite de Douce Nuit, Sanglante Nuit 1. qui est sorti en 84 de Charles E. Sellier Jr.
Sur mon séant.
Ah mais je voulais vraiment que vous en soyez sûr parce que
dans le monde du nanar faut préciser parce qu'il y a des films qui commencent au numéro 2
voire au numéro 3 oui. Mais là, la particularité, c'est que si vous n'avez pas vu Douce Nuit, Sanglante Nuit, c'est pas grave car vous allez avoir 40 minutes de ce film dans le 2.
Ah oui.
Ah ouais, non, c'est sans pitié que Godfrey devait traîner dans les parages, je ne sais pas. Mais en tout cas, le 2, déjà, c'est 40 minutes du premier. Alors, le premier, c'est assez simple. C'est le... Je vais évoquer un petit peu le premier. Donc, c'est le jeune Billy, dont la famille est tuée sous ses yeux par un voyou déguisé en Père Noël. Et qui va être emmené dans un orphelinat sordide, où la mère supérieure assez dérangé, va le dresser à coups de ceinturon pour lui inculquer les bonnes valeurs, comme nous allons le voir dans cet extrait qui va suivre.
Billy ! Ne le blâmez pas, ma mère, c'est moi qui l'ai autorisé à sortir.
Ne vous mêlez pas de ça, ma sœur. Billy, viens ici.
Billy, qu'est-ce que t'as fait ?
Ton frère est taré, t'as pas encore compris, toi ?
Ah, c'est fort, rendez-le-moi !
Taisez-vous ! Qu'as-tu vu là-haut, Billy ?
J'ai rien vu, ma mère.
Je veux que tu saches, Billy, que ce qu'ils ont osé faire est très vilain. Ils croyaient qu'on ne les verrait pas, mais ils se trompaient. Lorsqu'on fait quelque chose de vilain, on est toujours attrapé. Et ensuite, on est puni.
Alors, le doublage a l'air, en tout cas, alors,
le doublage,
super
en fait,
recommandable.
Le doublage, en fait, non, il n'est pas recommandable. Je vais expliquer pourquoi après. Parce qu'en fait, la VO est pire.
Oh.
Ah oui, mais c'était un peu comme Troll 2. C'est un de ces films où la VO est pire. Elle est devenue même culte aux États-Unis, en tout cas pour le 2. Alors, le Billy va grandir, traumatisé comme il se doit. Et la nuit de Noël, on va lui demander de s'habiller en Père Noël. Chose qu'il fallait pas, vu que le Père Noël, il a tué sa famille, il pète les plombs, il tue tout le monde. À la fin du film, il se fait abattre par la police sous les yeux de son frère Ricky. Et dans le 2, Ricky, qui porte donc ce joli prénom, abréviation de Richard, l'un des plus beaux prénoms du monde, donc ce jeune Ricky, eh bien, il est interrogé par un psychiatre, ce qui permet de refourguer 40 minutes du premier film, puisqu'il va expliquer tout ce qui s'est passé. Et le jeune Ricky, eh ben, il va suivre les pas de son frère, péter les câbles.
Et devenir prof d'histoire géo.
Oui, c'était soit ça. Hein. C'est soit psychopathe, soit prof d'histoire géo. Mais comme il n'est pas assez méchant, il n'est que psychopathe. Et il va se mettre, lui aussi, suite, on va dire, à un coup de colère, à tuer les gens de façon assez imaginative, à coups de parapluie, à coups de câbles électriques, à coups de hache, parce qu'il va se mettre à poursuivre la bonne sœur qui a martyrisé son frère et qui l'a un petit peu martyrisé aussi. Et donc, dans les 40 minutes de film original, le Ricky en question démastique à peu près tout ce qu'il trouve. Et surtout, ce Ricky en question est interprété par un des plus grands acteurs du cinéma, Eric Freeman, dont c'est le premier rôle cinéma crédité, et je crois que c'est le dernier rôle cinéma crédité.
Oui, parce que
il fera plus que des figurations. Ce qu'on appelle une étoile filante.
Voilà. Il ne fera plus que des figurations, des apparitions télé. Parce que c'est quand même la quintessence du surjeu. Il roule les yeux, il ricane, il prend des mines absolument démentielles sur la moindre scène. Et c'est la folie furieuse. C'est même à tel point qu'il a un site internet, ericfreeman.com, où on peut le contacter pour faire des conventions, des anniversaires. Parce qu'il a acquis un statut culte aux États-Unis.
Et les fêtes de Noël, on peut aussi.
Ouais. Il a acquis un statut culte aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reviens un petit peu sur le doublage. Parce qu'en fait, le doublage français, il sauve les meubles. Parce que les doubleurs, c'est des... Voilà, c'est pas des grands doubleurs, mais ce qui est assez rare, c'est que ils sont suffisamment bons pour atténuer en fait l'effet catastrophique. Et j'ai mis deux extraits, dont un qui est devenu culte aux États-Unis véritablement. Les expressions étaient assez galvaudées, mais il est devenu un mème aux États-Unis. On va écouter un premier extrait en français. Pendant que Ricky part dans une espèce de série de meurtres au hasard dans une petite banlieue pavillonnaire, suivi du même en anglais, et vous allez voir la différence de jeu.
Je vois très bien l'extrême plus tard.
Ramassage des ordures.
Non.
L'assertion française, vous le voyez, elle est honnête. En anglais...
C'est vrai qu'il n'y a rien de choquant, on va dire.
Voilà. En anglais, c'est devenu véritablement un...
Non, c'est pas... C'est devenu un running gag. C'était, non ? Ah, c'est devenu un
running gag maintenant.
Garbage day !
Huh ?
Non !
Garbage Day.
C'est-à-dire qu'ils auraient une légère tendance à surjouer.
Ah, très légère. Et ça donne une petite idée du jeu d'Eric Freeman, qui parle peu, qui ricane beaucoup, mais qui parle peu.
C'est vrai que tu faisais le parallèle avec Troll 2, mais c'est exactement l'extrait, le Oh My God de Troll 2.
C'est ça, oui.
Qui est 10 fois mieux en VO qu'en VF, quoi.
Et c'est rare, mais là, c'est vraiment le cas.
Ça arrive effectivement, je me rappelle aussi dans Miami Connection, qui est un film avec certains des acteurs les plus épouvantables jamais vus à l'écran.
Je confirme.
Et où la VF, pareil, sauve presque les meubles par rapport à une VO catastrophique.
Ouais. Et donc le film, bon, je vous le passe assez rapidement, il va partir à la chasse à la bonne sœur. Bonne sœur d'ailleurs qui est interprétée par deux actrices différentes selon les scènes, hein, parce que il n'a pas réussi à récupérer l'actrice du premier film, donc il maquille assez lourdement une actrice qui est vaguement ressemblante, mais bon, ça se voit quand même. Tout est hyper fauché, hyper gratuit en termes de meurtre absolument stupide. Le film est d'une assez grande bêtise, assez fier de sa bêtise, et surtout sans pitié pour ce qui est de recycler des scènes pour pouvoir vendre pour pas cher, et donc assez drôle. Alors le film, il s'inscrit dans toute une série, puisque les 12 nuits sanglantes nuits, le premier avait fait son petit effet. Il avait notamment fait son petit effet parce qu'il y avait eu des manifestations des associations américaines pour interdire le film, parce qu'un Père Noël tueur...
Parce qu'il était trop nul.
Non, parce qu'un Père Noël tueur, ça se fait pas. Et quand le film est sorti avec son Père Noël à la hache, en tout cas le premier volet, il a joué un peu sur la publicité du fait que dans certains cinémas, il y avait eu des manifestations pour...
Il y a eu un vrai effet de curiosité.
Voilà. Et donc ce qui a fait qu'on, pour beaucoup moins cher, on a fait le 2, et ça a marché, ça a eu un tout petit succès, donc ça a permis de faire un 3, le 3 qui s'appelle quand même donc 12 nuits sanglantes nuits coma dépassé, où Ricky, qui a été abattu par la police à la fin, est encore en vie, son cerveau est reconstitué par un scientifique fou. Le père Ricky en question va finir par se réveiller et traquer une médium pour essayer de la tuer. Ce qui nous entraîne, donc ça c'est en 89, un film de Monty Hellman qui est pas très bon, hein, soyons honnêtes, il est assez soporifique. En 90, quatrième mouture.
Donc palliatif.
Douce nuit. Non, il se calme un petit peu sur les...
Ne réanimez pas.
Il se calme un peu sur les titres. Douce nuit, sanglante nuit, initiation. De Brian Yuzna, ouais, ils ont un réalisateur un peu plus coté, qui a plus rien à voir avec les précédents, puisque là il s'agit de l'histoire d'une secte féministe, d'adoratrice d'Ève.
Et ça se passe à Pâques.
Non, qui tue à Noël en fait, pour venger Ève d'avoir été dépossédée par Dieu, de ses pouvoirs au profit d'Adam, et qui tue des hommes de façon assez imaginative. Alors,
ça fait très Brian Yuzna quand même dans le scénario.
Oui, oui, oui. Alors c'est un peu meilleur. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est un petit peu meilleur. Il y a la James Bond girl Maud Adams qui joue un petit rôle. Donc ça marche suffisamment pour qu'en 92 ils nous fassent un 5. Les jouets de la mort avec des Pères Noël robots tueurs.
Les jouets Jean-Michel de la mort.
C'est un sous-puppet master, c'est-à-dire qu'il y a un fabricant de marionnettes et d'automates qui fabrique des automates tueurs, dont des Pères Noël grandeur nature qui se mettent à tuer les gens. Le ventre de la bête est fécond, mais il ne faut pas exagérer quand même. Donc après celui-là, ça va s'arrêter. Et en 2012, il y a eu un remake plutôt sympa de Steven C. Miller avec Malcolm McDowell, où là, il joue à fond la carte, on va dire, slasher second degré avec des meurtres imaginatifs. Et ça se laisse regarder gentiment. Et donc, toute cette série, un petit peu, c'est le nanar d'horreur qui profite un petit peu de la figure du Père Noël. Il y en aura encore plein d'autres, hein, Christmas Evil, Santa Slay, Père Noël Origins. Il y a un Santa Claus, mais un Santa Claus, cette fois-ci, à coup de griffe. Hein, donc ça, c'est pas tout à fait le même.
Et Santa Slay, voilà, c'est plutôt
pour
cool,
une
hein.
gentille nuit de Noël en famille, un Père Noël avec une hache qui descend pour vous foutre des grands coups par milliers. Si vous n'êtes pas très très gentil, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut pour garder l'esprit de Noël, parce que si vous n'êtes pas sage à Noël, punition.
Ne sortez pas les poubelles, c'est une question de survie.
Ouais, merci Rico, merci beaucoup, c'était bien, bien marrant. C'est... moi je l'ai jamais vu, mais je savais que ça m'a bien donné envie de le regarder. En plus S'il y a un côté Troll 2, vous m'avez vendu quoi. Ouais. Bon, il n'y a pas de gobelin végétarien visiblement, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Quoi. Bah... C'est Père Noël avec une hache ou gobelin végétarien.
Voilà, on ne peut pas tout avoir.
Fabien, mon ami.
Oui, et eh ben écoute, ça tombe bien, je vais rebondir.
De quoi vas-tu nous parler ?
Je vais rebondir sur la notion de punition. Qu'est-ce qu'on fait généralement à Noël ? Eh ben,
on punit ses enfants.
On bouffe de la dinde, on est d'accord. On s'engueule en parlant politique autour de la bûche. Mm-hmm. On ouvre des cadeaux. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils ouvrent aussi des cadeaux, ils parlent pas politique hein, parce qu'ils sont trop jeunes.
Ils regardent les chaventuriers de Noël, si je puis me permettre.
Ils peuvent regarder les chaventuriers de Noël, mais généralement, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent des dessins animés. Or, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait mieux que Noël qu'un bon vieux dessin animé de Joseph Lai ?
Oh, oh là 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 !
Tout de suite,
voilà.
Un esthète, un brutal.
Joseph Lai, que vous connaissez un petit peu si vous avez écouté l'émission sur les ninjas, hein, qui est un peu le mec qui est capable de faire le moindre film au moindre prix, et qui a réalisé, enfin du moins qui a produit un film que j'aime beaucoup, un dessin animé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Prince de l'Éclair. Donc un petit dessin animé d'action karaté qui est sorti en 87 et dont la pauvreté est tellement forte et tellement dérangeante que je ne peux que mentionner cette chose-là, c'est à savoir que en fait il est sorti juste après Fievel et le Nouveau Monde et juste avant Roger Rabbit. Mm-hmm. Voilà, et quand on voit le résultat, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas un gap entre les deux, mais c'est carrément un gouffre abyssal. Quand on voit le résultat du film, j'ai l'habitude de dire que peu importe la hauteur du barreau de la misère, Joseph Lai m'étonnera toujours par sa faculté à se glisser par-dessous. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratouille un petit peu.
T'es ému ?
Je suis ému, c'est peut-être pour ça. Alors je vous raconte vite fait le pitch, ça me permettra de rebondir sur le premier extrait qui va arriver. C'est qu'en fait, Andy voit son père se faire tuer. Donc son père s'appelle Monsieur Azur.
Joyeux Noël !
Joyeux Noël ! Voilà, par le grand méchant Mr. Black. Et du coup, avant de mourir, donc le maître Azur cache son fils dans une caverne avant de s'enfuir, lâchement bien sûr, et de sauter d'une falaise. Le jeune donc vivra dans la forêt, fera copain avec des animaux et ensuite à l'aide d'un vieux maître totalement aviné parce qu'on le voit boire des coups totalement la plupart du temps dans le dessin animé l'aidera à se former.
Joyeux Noël les enfants.
L'aidera à se former au kung fu pour qu'il puisse prendre sa revanche plus tard. Et du coup ça me permet de rebondir un petit peu, enfin du moins de vous proposer le premier extrait qui est justement ce moment poignant, mais vraiment poignant, très très bien joué par les doubleurs, où le père d'Andy abandonne son fils, et vous verrez, si vous ne pleurez pas à la fin de cet extrait, c'est que vous êtes un robot, littéralement.
Andy, mon fils, je dois te laisser là pour ta sécurité. Si je ne reviens pas, il faudra continuer sans moi pour garder la famille et le clan. N'oublie pas que je t'aime, mon fils. Tu dois devenir un homme courageux et être fier du nom que tu portes, tu comprends? Tu porteras toujours ce pendentif de jade. Et quand tu seras grand, tu devras suivre ma voie, celle de notre famille et de notre clan. N'oublie jamais ce que je t'ai dit, Andy. Tu as compris, mon fils? Je dois partir maintenant.
Et là, tu te dis, mais là, tu te dis, il va partir pour se battre et mourir honorablement face au Monsieur Black et ses sbires. Mais non, en fait, il se barre en courant au bord d'une falaise et plutôt que se battre, il se jette dans la falaise. Donc, qu'est-ce que fait Andy du coup, livré à lui-même ? Il va se faire copain avec des animaux qui sont tous aussi mal faits les uns que les autres, en fait. Généralement, dans un dessin animé, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a trois composantes. Hein. Il y a le dessin, la perspective et l'animation. Alors on va dire que le dessin, ça se rapproche d'une qualité qui touche les plus grandes peintures rupestres des grottes de Lascaux. qu'au niveau de la perspective, c'est vraiment digne des plus grands hiéroglyphes d'Égypte. Et qu'en termes d'animation, pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon magnétoscope était mis sur pause, en fait, à des moments, jusqu'à ce que j'entende le son. Parce qu'on est vraiment sur du 4, voire du 5 images par seconde à des moments. Et c'est tellement fait par une grosse fainéantise, vous allez me dire, c'est du Joseph Lai, c'est peut-être normal, que du coup, on a vraiment l'impression que le dessin animé fait à peu près 2h40, alors qu'en fait, il en fait 1h10. Et du coup, je rebondis sur cette histoire de son, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce DA et des DA de Joseph Lai sans parler du doublage, bien évidemment. Donc là, vous en avez eu un petit extrait. Moi, j'aime beaucoup le doublage suivant, qui permet d'évoluer, si vous voulez, la force et la capacité des doubleurs de ce dessin animé, notamment quand il s'agit de se battre.
Je crois qu'on peut dire un mot peut-être dans la façon dont Joseph Lai avait l'habitude de doubler les films et de recruter les doubleurs. C'est-à-dire qu'il faisait ça directement à Hong Kong, il n'envoyait pas les trucs en France. Et que pour les acteurs, il allait recruter dans les auberges de jeunesse en prenant les backpackers qui passaient par là et en leur disant « Vas-y, tu veux gagner ça. $50 ?»
Mon rêve.
Et alors, encore, quand il recrutait les doubleurs, on avait de la chance parce que souvent, il les faisait même jouer dans ses films de ninja.
Oui, c'est vrai. Et ça s'entend pas du tout, par contre.
Non, c'est bizarre.
C'est bizarre, hein.
Mais là, sur cet extrait, vous allez voir, hein, franchement, voilà, la douleur et la baston.
Alors, voilà ceux qui osent s'opposer à moi, hein ? Capitaine Red, montre à ces messieurs quelques-unes de nos spécialités. Alors, qui de vous veut combattre la force du serpent et du crâne ? Hein ? Allez !
Vous n'êtes que des lâches. Vous avez volé le secret de la force du serpent et du crâne au seigneur de l'Azur, et vous vous en servez contre des innocents.
Espèce de minable, tu vas voir !
Justice sera faite un jour.
Alors, quelqu'un d'autre veut combattre le pouvoir de Mister Black ?
Voilà, donc si jamais à côté de ça on me dit que ces gens-là étaient payés, j'ai envie de m'exiler en Suisse pour les dénoncer au fisc. Alors c'est marrant parce qu'en fait tout est vraiment très très mal dessiné dans ce dessin animé. Franchement, on est vraiment sur du podcast, mais c'est vraiment un film qui se voit et il y a deux vraiment sens qui vous qui sont blessés à la vue de ce film. C'est effectivement Louis d'abord, parce qu'avec le doublage, et ensuite la vue tellement que c'est mal fait. notamment, j'en veux pour preuve, moi, tous ces petits animaux qui vont faire copain avec Andy pendant le film. Donc il y aura des lapins, des écureuils, des biches, des singes, des loups, des poissons, etc. etc. Bon, alors, faut le dire comme il est, moi déjà, le lapin, j'ai cru que c'était un castor. l'écureuil, il fait à peu près 2,50 m de long quand il monte l'arbre. La biche, excusez-moi, mais moi vraiment au début, de loin, j'ai cru que c'était une antilope. Le singe, il a des rouflaquettes énormes, ça j'adore ça parce que du coup, en plus, le singe parle si vous voulez, et il parle en faisant des petits cris, ce qui veut dire que au doublage, on a l'impression que c'est un mix en fait entre des bruits de singe, des bruits de diable de Tasmanie et un acteur porno. Voilà.
Parce que ce qui n'est pas incompatible.
Ce qui n'est pas incompatible, mais dans la bouche d'un petit singe qui fait copain avec un enfant, c'est quand même assez bizarre.
Alors, si parmi nos auditeurs, quelqu'un a des cassettes ou des DVD de ça, on est preneur.
Oui, voilà. Il y a un loup, franchement, le loup qui ressemble plus à un chien de prairie qu'à un vrai loup. Et mon personnage préféré, c'est le poisson, qui en fait n'est pas du tout un poisson, en fait, c'est juste en fait, une écrevisse. Voilà. Tout ça est très très mal fait, tout ça est très mal doublé, tout ça est très mal animé. Et pourtant, il y a un passage qui m'a vraiment totalement fasciné, c'est qu'à un moment, le prince de l'éclair, donc il s'appelle Andy, se fait agresser par un serpent. Donc il se bat un petit peu contre le serpent avec ses petites mimines à main nue comme ça, et le singe vient l'aider. Et qu'est-ce que fait le singe pour l'aider ? Vous allez me dire, il lui met un coup de pied, il peut lui mettre un coup de queue, il peut lui taper sur la tête, comme n'importe quel dessin animé. Non, le singe, lui, il arrive avec ses deux grosses mains et il lui crève les yeux au serpent, il lui arrache les yeux dans une gerbe de sang.
Bon, joyeux Noël.
Voilà, et ça, vous avez ça pendant 5-6 secondes au milieu d'un dessin animé qui est totalement lambda, j'ai envie de dire, hein, dans sa construction. Et rien que pour ça, déjà, j'ai envie de dire que ça vaut le coup de le voir.
Ça vaut le coup de mettre ses enfants devant pendant qu'on mange.
C'est un petit côté Tyler Durden quand même.
Voilà.
C'est tout juste s'il n'y a pas une teub qui apparaît au milieu de l'image. Quoi. On est en fait club là un peu.
Alors il y a aussi le personnage du vieux un peu aviné qui entraîne le jeune Andy. Vu que j'ai un petit peu de temps, il me reste un petit peu de temps, je vous propose qu'on écoute l'extrait où il explique un petit peu dans un charabia philosophico, n'importe comment, un petit peu le pouvoir des arts martiaux.
Si tu n'entres pas dans le monde du non-être, tu n'atteindras jamais le secret de l'art de la guerre. Abandonne ta colère. Quand la colère se mêle à l'art de la guerre, tu es en péril. Mais la justice triomphera du mal. C'est l'esprit de l'art de la guerre. C'est la voie du juste. C'est aussi la première leçon. Fonds-toi dans l'univers. L'humanité ne représente qu'un grain de sable. Et l'art de la guerre vient de l'univers. Il est infini, sans limite. Un jour, tu maîtriseras la force entrera en toi pour rayonner dans l'univers, et rien ne pourra jamais t'atteindre pour te dominer.
Et vice-versa. Et vice-versa.
C'est vrai qu'on dirait un peu le groupe 35 2000 des Inconnus. Voilà, donc je dédie ce film, en fait, à Steven. Toi, Steven, petit enfant de 10 ans qui a foutu le feu à la moquette en jouant avec les allumettes de papa. Toi, Steven, qui a coupé les couettes de ta sœur avec un sécateur alors que tu n'avais pas le droit de le faire. Toi, Steven, qui dessine des zizi sur les ardoises de l'école ou sur les murs de ta chambre au feutre indélébile. Eh ben écoute, tu pensais voir le dernier Pixar au cinéma ou le dernier film des studios Ghibli. Eh ben écoute, tu regarderas Le Prince de l'Éclair de Joseph Lai. C'est bien fait pour ta gueule.
Voilà. Et joyeux Noël.
Et joyeux Noël. Ah putain, j'essaye d'imaginer tous les gens qui ont pu acheter ce machin de manière complètement random dans les années, je sais pas, 90 et qui ont mis leur gamin devant.
Putain. Non mais en plus je pense qu'il faudra faire une spéciale dessin animé à Joseph Lai parce qu'il y a de quoi faire quoi.
Il y en a une collection assez longue, mais qui ont tous en plus des titres totalement interchangeables. C'est les protecteurs de l'univers, les conquérants du cosmos, les aventuriers de la galaxie.
C'est un des rares justement qui n'est pas science-fiction dans les dessins animés de Joseph Lai.
Et celui-là je l'ai vu il y a longtemps, je crois que c'est un des rares qui n'est pas un 2 en 1 en fait.
Non.
Parce que souvent en fait ils y font encore la méthode de coller plusieurs bouts de dessins animés récupérés à droite à gauche. Et là c'est du truc fait en Corée à la chaîne. La Corée du Sud était un très très grand pourvoyeur de dessins animés à pas cher. Et ils achetaient mais du kilomètre de dessins animés interchangeables. Et là, celui-là, c'est un des rares qui est dans leur collection en un bloc. C'est-à-dire que le film, c'est le même du début à la fin, qui raconte une vraie histoire. Et si ça se trouve, il a été recannibalisé derrière pour refaire d'autres films qu'on n'a pas eu chez nous, où il y a des bouts d'Andy, des bouts de poissons écrevisses et...
Des yeux de serpent.
Ouais, de serpent énucléé au milieu de robots géants et d'invasions extraterrestres. Hein.
En tout cas, grâce à vous, on vient bien de sentir l'esprit de Noël, là, je trouve.
Ah oui, on l'a senti bien profond, l'esprit de Noël. Là.
C'est vrai qu'on est commencé par Santa Claus avec les petits chatons et on vient un petit peu à n'importe quoi.
C'est vrai que c'était l'escalade de la violence, quand même. Et ouais, tiens, rapidement sur. C'est vrai que les dessins animés produits en Corée du Sud, à cette période-là, il y a des trucs assez marrants parce que. C'est vrai que c'était le grand remix de tout et n'importe quoi. T'avais des Batman contre Goldorak et ce genre de choses sans problème quoi.
Oui, t'avais même des mélanges en fait de oui, films et d'animation. Mmh. Enfin, où t'avais des bouts de dessin
oui.
animé.
Ah oui, aussi, oui.
Mais il piochait dans l'univers de Go Nagai des fois, puis aussi dans certains comics de Marvel aussi.
Moi, oui, voilà. Ouais,
t'avais des Transformers parfois, t'as Batman contre Prime Goldorak. Qui débarque pour se friter contre Goldorak. Enfin,
Ouais, c'était le
Il faut pas oublier aussi qu'ils fournissaient les trois quarts des dessins animés du samedi matin des États-Unis. Hein. Les Simpsons, ça a été au départ fait en Corée du Sud pour des questions de coût.
Et Joseph Lai, lui, faisait l'activité à haute valeur ajoutée qui était le doublage, donc ils sont spécialités.
De l'import-export avec une forte valeur ajoutée.
Eh ben merci les amis. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de passer aux recommandations?
Eh ben, pour rester, je pense, dans l'esprit de Noël aussi, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est assez nanar, c'est les papillotes de Noël, et particulièrement les papillotes premier prix, et les blagues qui sont dans les papillotes premier prix.
Ça sera la recommandation.
Ça sera la recommandation.
J'en aurai une autre après, mais.
Et moi j'en ai une autre.
Première recommandation, c'est
les chocolats nanars aussi, c'est pas mal. Les sous-marques de chocolat, c'est très très bon. Voilà.
Ça fait très très mal au ventre.
Ça fait très très mal au ventre. Je vous déconseille de cuisiner avec aussi. Si jamais vous en reste en disant tiens, je vais les faire fondre pour faire un gâteau ou une mousse au chocolat, je vous le déconseille.
Je crois qu'il y avait une palette à Noz qui. Ouais. Qui datait de Noël 2014, un truc comme ça.
Le truc est à moitié fondu parce qu'il a fait tout le mois de juillet dessus, tu sais.
C'est vrai que la chaîne du froid me semble pas super respectée non plus là.
Non, je déconseille d'acheter de la nourriture à Noz.
Moi, ça sera ma recommandation, c'est d'aller faire un tour à Noz de temps en temps. Parce qu'il y, y a des trucs qu'on trouve que là-bas. Et alors, en plus, pour le coup, parfois il y a vraiment des bons trucs. Il y a des Blu-ray, oui, des choses comme bon ça. Truc, vraiment étonnant, quoi.
Des éditions incroyables.
Alors, est-ce que vous avez quelques recommandations à donner à nos auditeurs?
Moi, j'aurais une petite recommandation pour compléter un petit peu sur 12 nuits, sanglantes nuits. Alors, le premier, peut-être, c'est les chroniques vidéo de Karim Debbache, c'est Chroma. Il a fait un épisode complet sur le premier, 12 nuits, sanglantes nuits, qui lui a permis de faire toute une réflexion sur donc le genre du slasher et derrière sur les codes du cinéma et à partir de quel moment on dynamite en fait les codes du cinéma, volontairement ou involontairement, et ce que ça veut dire que des codes, est-ce qu'on accepte par exemple le côté énorme qu'on peut accepter des deux personnages complètement idiots dans les slashers parce qu'on sait que c'est le code du cinéma et à partir de quel moment on peut les transgresser. C'est vraiment, vraiment très fin, très bon.
Et toi Fabien, je crois que tu voulais parler de quelque chose.
Oui, je voulais vous parler de la sortie justement pour rester sur Noël en Blu-ray par Le Chat qui Fume de 3615 Père Noël de René Manzor.
3615 Code Père Noël.
Oui, c'est 3615 Code Père Noël, excusez-moi, de René Manzor. Alors c'est un film assez particulier, un film français sur un Père Noël psychopathe qui rentre dans la maison d'un jeune enfant qui est tout seul la nuit de Noël. Et donc l'enfant a 9-10 ans et l'enfant va se défendre en posant des petits pièges un peu à la maman j'ai raté l'avion. D'ailleurs, il y a une fameuse légende comme quoi Chris Columbus se serait inspiré de 3615 Code Père Noël pour faire Maman j'ai raté l'avion. Parce que justement, le garçon de Maman j'ai raté l'avion pose des petits pièges comme ça et là dans la maison. Pour s'enfuir et pour se ralentir un peu la course inexorable du Père Noël qui veut le tuer. C'est pas du tout une comédie, hein. On est vraiment sur un film avec une grande tension et qui est vraiment marquant. C'est assez particulier, moi je vous conseille de le voir parce que c'est une très très bonne expérience. Il sort en plus donc en Blu-ray et surtout le Blu-ray est à noter parce qu'il est gavé de bonus. Là j'ai la petite liste devant moi, donc on a les commentaires audio de René Manzor. On a un court-métrage, on a la chanson, on a des galeries photos, on a des comparatifs entre le film et storyboard. Bref, l'édition est vraiment géniale. Et si jamais vous avez jamais entendu parler de ce film, je vous conseille vraiment de le voir. Donc profitez justement de la sortie du DVD et du Blu-ray pour parfaire votre culture cinématographique.
Et en ce moment d'ailleurs, il est en train de ressortir un tout petit peu au cinéma. À l'heure où cette chronique sera, enfin, ou plutôt à l'heure où ce podcast sera mis en ligne, je pense qu'il sera déjà passé au PIF, c'est-à-dire le Paris International Fantastic Film Festival, en présence de René Manzor, mais peut-être que si vous êtes dans le Grand Est, à la Scala de Thionville, ils font une soirée qui est un grand lieu dans l'Est pour les soirées bis, ils en font tous les mois, et avec vraiment des Romains qui s'en occupent, et vraiment un fanat de genre de film, il fait une double soirée, donc normalement c'est le 28 décembre, donc peut-être que le podcast sortira avant le 28 décembre, donc à la Scala de Thionville, avec donc deux films, 3615 Code Père Noël et What We Do in the Shadows. Si vous êtes en Lorraine, c'est vraiment un rendez-vous aussi à pas manquer tous les mois. Voilà.
Alors je crois que la Scala de Thionville a été renommée le cinéma de Johnny Hallyday à l'heure où ce podcast est diffusé. Donc attention, vérifiez bien sur le nom du cinéma.
Et sinon, Régis, tu veux nous donner l'adresse de ton ose?
Ah mais c'est comme les coins à Maury, hein,
ça se donne pas.
Parce qu'ils ont des arrivages différents. Alors c'est le ose de Saint-Égrève. Voilà, c'est dit. Il y a plein de trucs.
Il y a aussi un ose à Bourgoin-Jallieu.
Et un ose à Chambéry, Chambéry-Vauglan.
Vous avez de la chance, hein.
Ouais,
on n'a pas tout ça, nous. Hein.
Mais faut mériter la place. Ouais.
Nous, on a des Fnac, des trucs comme ça.
Ouais, bah, on va se arriver avec le magasin Colette. Hein. Nose, ils ouvrent franchise sur franchise et il y en a d'autres qui ferment.
Ouais.
Je crois qu'ils vont dans ta gueule, Uniqlo.
Voilà. Ils vont faire un partenariat avec Fauchon, je crois. Ils vont faire des boutiques jumelées.
Nose
Fauchon.
Merci à vous, merci beaucoup.
Mais
je pense qu'on a encore réussi à convaincre tout le monde de regarder ces films. Surtout, regardez un petit. Essayez de trouver. Il doit y avoir des gifs animés du Prince de l'Éclair parce que ça se prête particulièrement bien aux gifs animés. Quoi.
Les gifs animés sont trop rapides en fait. Pour...
Ouais, c'est ça.
Ça s'appelle des images JPEG.
Nanarland, le podcast, c'est un podcast Riviera Ferraille, produit avec amour et de main de maître par Henri Michel, qu'on remercie. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast, pour un sujet dont on vous garde la surprise, et on se quitte en musique comme on s'est trouvé avec Karen Cheryl. Allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, salut. Gardez l'esprit de Noël.
C'est ici, là aussi, que l'on tranche et que l'on suit, bien assis. Moi aussi. Tiens plus haut ton marteau, tu tapes pas sur les doigts, et voilà. Maladroit. Dans ce coin, on repart, les lapins et les infâmes, les petits trains. Là c'est bien. Les couleurs, ça se met sur les fleurs, pas sur ton nez. Oh bravo!